Chapitre 34. 1960.
Mokhtar est assis sur un banc devant l'église. La place est déserte. Il écoute. Il préfère rester sur le pas de la porte. Chaque matin, il retrouve le père Aubry, place des Forges, pour boire un café. Mais jamais il n'entre à son travail. C'est ainsi depuis 4 dimanches. Mokhtar compte les semaines en dimanches. Cela fait 7 dimanches que Jean habite chez eux, et 4 que le curé a demandé à Jean de jouer une œuvre de Bach pour orgue, celle qu'il veut, après son homélie. La première fois que le père Aubry a entendu l'orgue, il était dans sa cure en train de couper des poireaux pour sa soupe. Il a cru à un miracle, à une intervention divine. Il était 18h, un lundi, et jamais Madame Feuillet ne joue à cette heure-là. Il est revenu à l'église, précipitamment, a gravi l'escalier 4 à 4 et découvert un jeune garçon. Concentré, extatique. Colette l'avait pourtant prévenu, mais il avait oublié que le garçon viendrait faire ses gammes. Debout, près de lui, Madame Feuillet, l'organiste de l'église depuis 1937, s'est tournée vers le prêtre, a levé les mains au ciel et lui a glissé à l'oreille: on ne peut pas lutter contre cette concurrence. Mokhtar écoute la musique de Jean. Ce petit doit être une sorte de djinn, une créature surnaturelle venue sur terre pour répandre la beauté, réparer les vivants. À l'intérieur de l'édifice, Colette se tient près de Blaise. Ses parents sont assis au premier rang à leur place attitrée, celle de la famille sénéchale depuis un siècle. Blaise observe la nuque de sa mère. Elle semble prier. Que cachent ses prières? Quels sont ses souhaits? Qu'attend-elle de la vie? Elle a l'air si malheureuse depuis le voyage à Lyon. Comment pourrait-elle être heureuse auprès d'un mari aussi obtus et autoritaire? Que se dit-elle en écoutant Jean jouer comme s'il maîtrisait son art depuis 1000 ans? Blaise pourrait s'enorgueillir d'avoir été son professeur, mais il n'en tire aucune gloire. Jean est né musicien. Il n'a fait que lui apprendre à déchiffrer les notes sur une partition. La marquise a fini par quitter sa chambre après le départ de Jean pour la cordonnerie. Elle est revenue prendre ses repas à table, s'adresse de nouveau au marquis ainsi qu'à Georgette, comme s'il ne s'était rien passé, comme si cette dernière ne l'avait pas trahi. Georgette, que Colette n'aide plus à préparer le déjeuner du dimanche. Georgette, que Colette n'est pas venue voir depuis le départ précipité de Jean. Pour avoir la paix, Colette confie l'enveloppe contenant son salaire à Blaise, qui la remet à l'employé de ses parents. La tranquillité s'achète, surtout quand il s'agit de la mère qui a tous les droits sur ses enfants, dont celui de les retirer de chez Mokhtar, si elle le décide. Quand la foule quitte l'église, Jean joue les dernières notes du chant « Gloire à Dieu dans le ciel ». Colette est la première à sortir, suivie de Blaise. Elle aperçoit Mokhtar, sa casquette dans les mains. Elle se dirige vers lui, allègre.
« Il joue de mieux en mieux, vous trouvez pas ?»«
Ça, ma fille, c'est impressionnant !»
Colette ne sourit pas, mais Mokhtar devine une lueur de fierté dans son regard.
« C'est quoi la musique dans vos églises, à vous ? »
demande-t-elle à brûle-pourpoint.
« C'est la mosquée, et il n'y a pas de musique. Chez nous, c'est le silence dans la prière. »
« Le silence ?»«
Oui. »
« C'est grâce à vous, Mokhtar. C'est vous qui avez eu l'idée de l'orgue dans l'église pour Jean. »
« Ça oui, ça m'arrive d'avoir des éclairs de génie. »
s'amuse-t-il. Colette et Mokhtar saluent Blaise et retournent à la cordonnerie comme des voleurs, tête baissée. Colette ne veut pas croiser le marquis. Elle pense que s'il ne les voit pas, elle et son frère, il finira par les oublier. Et la marquise ne leur a pas adressé la parole depuis qu'elle a été dénoncée par la mère. Juste de petits signes amicaux dans le dos de son mari. « Elle a peur de lui, » dit Blaise, la détestation de son père chevillée au corps. Jean retrouvera sa sœur d'ici une demi-heure. Pour ne pas déranger Mokhtar, qui n'a que le dimanche pour se reposer, ils déjeuneront dans la pièce de Colette. Elle marche à côté de Mokhtar et voudrait lui tenir la main, comme une fille et son père. Elle voudrait, mais n'ose pas. Il rougirait sans doute. Colette sait que les liens du sang, c'est de la merde, comme peste Mokhtar quand il répare une mauvaise chaussure. Ces coutures, c'est de la merde. Ce cuir, c'est de la merde. Je pourrais pas faire de miracle. Qui fera un miracle pour Jean ? Se demande Colette. Depuis qu'il est arrivé à la cordonnerie, son frère possède tout ce qu'il peut désirer. La présence de sa sœur et un clavier. Un piano au son étrange, mais un clavier reste un clavier. En revanche, plus de pédales douces, fortes, de soutien. La seule manière de jouer plus ou moins fort, c'est de choisir le ou les jeux de tuyaux dans lesquels il va envoyer de l'air pour produire du son. Jean a retrouvé la main de Colette lorsqu'il ferme les yeux le soir et qu'il plonge dans un sommeil profond. Il ne se fait plus de soucis. Sa sœur porte tout. Il pense à peine au certificat d'aptitude professionnelle qu'elle va passer dans quelques semaines, et encore moins à l'après, lorsqu'elle devra laisser sa place à un nouvel apprenti. Où ira-t-elle ? Que fera-t-elle de lui ? Elle n'a jamais évoqué le sujet avec Mokhtar. Il est tellement épris de justice. Il a toujours donné sa chance à un nouveau jeune, après que le précédent a décroché son diplôme. Son leitmotiv, c'est « pas de piston, pas de privilège ». Il faut être juste, équilibré, comme une bonne paire de chaussures. Regarde, ma fille, on a rarement vu un talon plus haut que l'autre. Dimanche prochain, ils iront se baigner. Colette a promis à Blaise de l'accompagner au bord de la Roue. Il aimerait lui changer les idées, l'emmener nager et dormir dans les herbes hautes de ce mois de mai. Elle se demande comment et où elle vivra après l'été. Et puis, Blaise sera parti. Est-ce normal d'avoir 14 ans et de se tourmenter ainsi?
Cassette numéro 11.
Ça te changera les idées, me disait Blaise. Mais j'avais qu'une idée en tête. Placer Jean chez un professeur qui le préparerait à une école de musique. C'était ça, mon idée. Une idée fixe, comme si ma propre existence avait aucune importance. Je pensais jamais à moi, mais à Jean. Alors, en 1960, pour le garder près de moi et rester chez Mokhtar, j'ai fait l'impensable. Je suis allée à l'examen de mon CAP et j'ai rendu des feuilles blanches dans toutes les matières. Et aux oraux, j'ai rien dit. À chaque question, j'ai répondu « je sais pas ». Et la professeure qui m'interrogeait insistait, s'agaçait. Elle a tout essayé, mais pour seule réponse, elle a eu droit à « je sais pas ». Elle a fini par me mettre dehors en grognant « tant pis pour vous ». Je pensais, si j'ai pas de diplôme, Mokhtar sera obligé de me garder une année de plus. Et quand il a reçu mes résultats, j'ai cru qu'il allait me tuer.
Elle fait une pause. Je l'entends soupirer. Puis elle se met à crier en imitant Mokhtar.
« Tu m'as trahi, ma fille. T'as mis la honte sur moi. On va penser que t'as rien appris chez moi, que je suis un mauvais patron. T'as manqué de confiance en moi. Je t'aurais jamais mis à la porte. Pour qui tu me prends ? Pour un Allemand ? Et arrête de faire cette tête d'idiote. Oui, parfaitement. Parfaitement, une tête d'idiote. Tu mériterais une bonne raclée, oui. Ça, oui, une bonne raclée. » Tu es inconsciente, zéro partout, zéro partout. Vous entendez ça ? Il s'est tourné vers les chaussures et s'est mis à leur parler. Zéro partout, elle me fout la honte sur moi, la honte sur vous, la honte sur mon magasin, la honte sur ma famille et mes ancêtres. Même ma machine à coudre est la honte. Regarde, regarde, ma machine, elle rougit de honte.
Colette se met à rire toute seule.
Et pendant ce temps-là, Jean jouait tranquille de l'orgue dans l'église sans se douter que Mokhtar était en train de me passer une soufflante. Il m'a renvoyé dans ma chambre. « Disparais, je veux plus jamais te voir !»
Elle fait à nouveau une pause.
« J'ai jamais repassé mon CAP. et j'ai jamais quitté Mokhtar. Et jusqu'en 2007, la cordonnerie. Je me suis appelée Colette Septembre toute ma vie, mais Mokhtar m'a adoptée civilement à la mairie de Gueugnon en 1967, quand j'ai eu 21 ans. J'ai gardé mon nom de naissance. Mais si tu vas sur mon état civil, tu verras que je m'appelle Septembre Behram. L'adoption simple fait s'additionner deux liens, celui de sa famille de sang avec sa famille adoptive. Ma famille, je l'ai choisie. J'ai souhaité garder le même nom que Jean. Mokhtar l'a compris. Et puis il m'a dit que certaines personnes avaient tellement de mauvaises choses dans la tête qu'elles auraient pu imaginer qu'il m'avait épousée. Je suis restée son employée, quand, en réalité, j'étais sa fille.
Mon téléphone sonne. Je coupe l'enregistrement, complètement sonné. Mais jusqu'où vais-je découvrir Colette, que je croyais presque sans mystère, sans histoire? Une vie que je pensais simple et linéaire, rythmé par les matchs de foot du samedi ou du dimanche. Et mon cœur s'arrête de battre lorsque je consulte l'écran de mon téléphone. Tout devient anormal. Tout s'affole. C'est Pierre.